que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Aujourd'hui, nous allons vous diffuser la deuxième table ronde organisée par la FASTI portant sur la question « C'est quoi le colonialisme aujourd'hui ?» titre qui est exactement le même que le livre autour duquel est organisé cet événement. Cette deuxième table ronde donnera la parole aux premiers et premières concernés, c'est-à-dire des acteurs en lutte.
Je suis de Kanaki, président du mouvement des jeunes Kanak ici en France. Aujourd'hui, on va vous parler un peu de notre histoire, l'histoire du colonialisme, la colonisation, mais aussi vous témoigner aussi le vécu. Pour dire que actuellement, voilà, il y a encore de la politique coloniale chez nous. Mais je vais laisser la parole tout d'abord à Mina pour vous exposer un peu le contexte politique aujourd'hui.
Alors moi, je suis Mina Kerfi, je suis de l'USTKE, l'Union syndicale travailleurs kanak des exploités, aussi du Parti travailliste de Kanaki. Je suis engagée dans cette lutte depuis une trentaine d'années. Je fais aussi partie du collectif Solidarité Kanaki. C'est un collectif qui a été monté en 2007 suite à l'incarcération des syndicalistes kanak du président de l'USTKE, dont fait partie le syndicat solidaire, Survie, la FASTI, Ni guerre, ni état de guerre, la CNT, enfin un certain nombre d'organisations progressistes. C'est un collectif qui interpelle l'opinion publique par rapport à la situation en Kanaki, qui interpelle les politiques, les médias, et aussi qui organise des manifestations, des réunions publiques. On a un site internet qui s'appelle solidaritékanaki.org et une brochure aussi, Solidarité Kanaki. Voilà. On peut vous donner plus d'informations par la suite. Alors, je vais vous parler un peu de la lutte du peuple Kanak. La Kanaki a été colonisée en 1853. Alors que les Kanaks étaient sur cette terre depuis plus de 3000 ans, la France a décidé d'en faire une terre de bagne, tout d'abord, puis une colonie de peuplement, comme l'a été l'Algérie également. Ce sont 20 000 prisonniers qui ont été déportés au bagne de Kanaki dans les années 1860. Puis ça a été une terre de peuplement avec des colons libres. Par la suite, le boom du nickel a apporté des populations venues de métropole, d'Asie et du Pacifique. Avec le boom du nickel, on a découvert du nickel là-bas. Aujourd'hui, les mines de nickel représentent 25% des réserves mondiales. Il faut vous dire que c'est très important. Avec 3 usines de nickel sur un petit territoire qui fait 400 km de long, les Kanaks sont devenus peu à peu minoritaires sur leurs propres terres depuis les années 60. Ils ont toujours combattu le colonialisme. De nombreuses batailles en témoignent. La bataille d'Ataï en 1978, puis en 1917, la bataille du grand chef Noël. Plus récemment, on a appelé les événements, en fait, c'est une guerre civile qui a eu lieu dans les années 84-86 avec la mort des lois Machoro. Puis, en 88, la quasi-guerre civile également avec la grotte d'Ouvéa et le massacre de 19 indépendantistes kanak. Ces guerres civiles ont entraîné des accords de paix. En 1988, des accords Matignon-Ondignon ont été signés qui ont permis un rééquilibrage en faveur de la population kanak, comme par exemple des formations de cadres. Plus tard, en 1998, les accords de Nouméa sont des accords de décolonisation. La Calédonie aujourd'hui est un territoire d'outre-mer en voie de décolonisation, je mets ça entre guillemets bien sûr, c'est-à-dire des transferts de compétences de l'administration française vers le territoire de Kanaky. Et à la suite de ça, 3 référendums étaient prévus par les accords de Nouméa. Le premier référendum a eu lieu en 2018 avec 43% de oui à l'indépendance. Le deuxième, une progression du oui à l'indépendance qui a mené à 47% le oui à l'indépendance. Donc une progression très importante du vote indépendantiste. Là-bas, c'est 85% des jeunes qui se sont mobilisés pour aller voter pour ce deuxième référendum. Donc c'est une victoire politique, malgré une défaite juridique et mathématique, mais c'est une victoire pour les Kanaks avec 85% de participation et 47%. Il faut savoir que la population Kanak, c'est seulement 39% de la population. On voit qu'il y a un vote aussi aujourd'hui pour l'indépendance de la part des jeunes Français qui vivent là-bas, des Caldoches ou des Français, des Métropolitains, et aussi des jeunes Océaniens qui se mobilisent aujourd'hui pour l'indépendance de la Kanak. Pourquoi surtout cette jeunesse se mobilise? Parce que la jeunesse aujourd'hui est Kanak est discriminée, marginalisée. C'est la jeunesse qui est vraiment en bas de l'échelle. Des jeunes à la dérive subissent l'échec scolaire, le chômage. Et même lorsqu'ils sont diplômés, qu'ils rentrent de France, ils ne trouvent pas forcément d'emploi à leur retour. Malgré une loi qui a été votée et influée par le syndicat USTKE pour la promotion et la protection de l'emploi local pour les Calédoniens. Pas seulement pour les Kanaks, pour les Calédoniens en général. Là-bas, en Kanaky, c'est un peu le contraire de ce qu'on peut voir ici. Là-bas, on va se battre pour que les Calédoniens soient prioritaires à l'emploi, contre l'installation des métropolitains qui viennent souvent prendre le travail, je dis entre parenthèses, hein, des jeunes calédoniens, parce que à compétences égales, le patronat calédonien va plus facilement donner le travail à des jeunes métropolitains avec peut-être plus d'expérience, peut-être mieux formés, pas forcément syndiqués au pays, qui n'ont pas la famille. Voilà, les notions de travail sont un peu différentes aussi là-bas, donc c'est un peu compliqué. Donc il y a une sorte de, je mets ça entre parenthèses, une discrimination positive et qui est contestée aujourd'hui par les métropolitains qui disent que ce sont des mesures racistes. Aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Notre syndicat est catalogué de raciste parce qu'il donne priorité aux Calédoniens pour l'emploi, avec cette protection de l'emploi. Pareil pour le logement, les jeunes sont discriminés au logement. La vie est très très chère en Calédonie parce que c'est une économie de comptoir avec une exportation des ressources naturelles, avec le nickel qui est exporté. Et 85% des produits de consommation sont importés. C'est vraiment une économie de comptoir, le colonialisme dans toute sa splendeur. Un tiers de la population kanak vit sous le seuil de pauvreté et une autre partie de la population vit dans l'opulence et le luxe. La vie est beaucoup plus chère qu'en France et le SMIC est plus bas. Les loyers sont très chers, presque du niveau de la région parisienne. Un petit appartement F2, c'est en euros, ce serait 1 000 euros. Et là-bas, le SMIC est environ à 1 000 euros. Les Kanaks ne peuvent pas se loger. Aujourd'hui, ce sont 10 000 Kanaks qui vivent dans des sortes de bidonvilles à la périphérie de Nouméa, qu'on appelle des squats. Au niveau de l'enseignement, des progrès ont été réalisés à la suite des accords de Matignon, mais ont été très ralentis. En 2019, seulement 8% des Kanaks étaient diplômés de l'enseignement supérieur, contre 58% chez les Calédoniens d'origine européenne. Une prison aussi surpeuplée, insalubre, des locaux vétustes. 95% des détenus dans la prison de Nouméa, le camp Est, sont des jeunes Kanaks emprisonnés principalement pour des faits liés à l'alcool. J'ai parlé des 2 référendums. Le 3e référendum, c'est l'État français qui a avancé la date au 12 décembre, alors qu'on attendait ce référendum pour 2022. Il a avancé unilatéralement, choisi la date, le 12 décembre, en pleine pandémie de Covid. Les Kanaks étaient les plus touchés par cette pandémie de Covid. Presque 300 morts là-bas, c'est énorme. Sur une population Kanak qui fait 120 000 habitants, c'est énorme. C'est pratiquement tous les clans de Calédonie qui ont été touchés par le deuil. Le Sénat coutumier a décrété 1 an de deuil. Malgré cela, l'État français n'a rien entendu et a avancé la date du référendum en pleine période de deuil. Les Kanaks avaient prévenu que s'ils avançaient la date, ils ne participeraient pas à ce référendum. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pas tant le jour des élections qui était important d'aller voter, les mesures sanitaires ont été respectées, mais c'est la campagne qui n'a pas pu se faire. C'est pas possible de faire campagne en période de deuil quand on n'a pas encore enterré ses morts. Le deuil chez les Kanaks, c'est une période très importante, avec des cérémonies coutumières qui durent, qui sont longues, et on ne peut pas aller parler de référendum dans les familles qui n'ont pas encore enterré leurs morts ou qui n'ont pas encore fait les coutumes. Donc l'État français n'a rien entendu de cela, un mépris total au niveau de la culture kanak, et le référendum a été avancé. Les Kanaks n'ont pas participé. La droite, bien sûr, c'était important pour eux de purger cette revendication indépendantiste, malgré tous les moyens. Le résultat est connu de tous, donc c'est 96% de non à l'indépendance, avec une abstention record de 56%. C'est moins d'un électeur sur deux qui s'est déplacé pour aller voter. Donc les Kanaks ont parlé de pseudo-référendum, d'une mascarade, et n'ont nullement reconnu ces résultats. Suite à cela, ils ont décidé de couper toute discussion avec l'État. Plus aucune discussion n'avait été en place depuis ce référendum. Et là, récemment, le ministre des Outre-mer, enfin maintenant c'est un ministre délégué aux Outre-mer, il n'y a plus de ministère des Outre-mer. Maintenant, il y a un ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco. Maintenant, c'est rattaché au ministère de l'Intérieur, chez Darmanin. Les Outre-mer, en général, ils voient une question surtout sécuritaire. Voilà, vous êtes sous le ministère de l'Intérieur, attention, attention si vous bougez, quoi. Donc, il est allé là-bas et essayer de reprendre le fil des négociations avec les indépendantistes. Ça a été très, très difficile. Les négociations commencent un petit peu à revoir le jour, il faut discuter. La droite, bien sûr, veut purger la revendication indépendantiste. Eux, ils disent qu'ils ont gagné les trois référendums, que c'est fini de l'indépendance, qu'il faut maintenant voter pour un nouveau statut pour la Calédonie. Et surtout, ils veulent en finir avec le corps électoral gelé. C'est-à-dire qu'en Calédonie, c'est le contraire de ce qui peut se passer ailleurs. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas voter en Calédonie. Et heureusement, comme ils sont minoritaires, si on laissait tout le monde voter, ça serait fini de la revendication indépendantiste. C'est seulement les Kanaks, bien sûr, qui peuvent voter, les Calédoniens. Ils sont reconnus en tant que victimes de l'histoire, c'est-à-dire les descendants du bagne, de l'administration pénitentiaire, l'administration coloniale, de tous ces descendants, les caldoches qui peuvent voter également, et les métropolitains qui sont installés en Calédonie depuis 1998, depuis les accords de Nouméa. La droite voudrait, parce que là-bas il y a deux corps, il y a les indépendantistes et les non-indépendantistes. Je dis la droite, c'est tous les partis non-indépendantistes qui sont principalement de droite. Eux veulent dégeler ce corps électoral et veulent imposer que tout le monde puisse voter. Et là, ça en serait fini de la revendication indépendantiste. Donc c'est ça qui va être négocié dans les prochains mois à Paris, parce que Carenco a proposé une réunion à Paris au mois d'octobre. Donc il y aura sûrement une bilatérale d'abord entre l'État et les indépendantistes. Et les Kanaks ont prévenu, quoi qu'il arrive, même si les référendums ont été perdus, quoi qu'il arrive, la revendication indépendantiste, elle continuera. Ils ne lâcheront jamais leur droit légitime à l'indépendance.
Moi, la question qui m'a interpellé, c'est la question qui a été posée... C'est quoi la colonisation aujourd'hui? Je vais essayer de tourner autour de cette question. D'abord, je vais nous présenter, nous, le mouvement des jeunes Kanaks, le MJKF. Les MJKF, ce sont des jeunes, ce sont des enfants de Kanaki. Ce sont des papas, ce sont des mamans qui sont mis ici en France. Et nous essayons de continuer de porter cette lutte contre le colonialisme. Ici en France, on essaie de faire entendre nos voix à travers nos amis de la solidarité et d'autres organismes. Donc cette lutte, elle est en nous depuis notre naissance. On a grandi avec. Et ça, on le vit avec depuis le lever du soleil jusqu'au moment où les étoiles brillent dans l'obscurité de la nuit. L'anticolonialiste... Elle est là dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que c'est une lutte qui se base sur la reconnaissance de la dignité de l'homme, la dignité de l'humain, de l'être humain. Comme disait Mina tout à l'heure, le peuple Kanak, elle existe depuis 3000, 4000 ans. Et nous avons été colonisés en 1853. Et quand les colonisateurs sont arrivés chez nous, ils nous ont enlevé notre humanité. On nous a chassés comme des bétails. On nous a renfermés dans des réserves. Avant 1946, on n'avait pas le droit de marcher sur nos terres. On n'avait pas le droit de vote. On n'était pas considérés comme des citoyens. Mais pourtant, dans la Première Guerre mondiale, en 1918, ils ont été appelés nos grands-pères dans les réserves pour venir défendre les droits et les intérêts du gouvernement français à l'époque. C'est ça aussi la colonisation. Ces mêmes vieux qui ont été amenés ici pour défendre les intérêts de la France ont été amenés après, pour exposer ici à Paris, soi-disant, ce sont des sauvages, ces mêmes vieux qui sont venus défendre la dignité et les droits de l'homme du peuple français. Au retour au pays, on n'a pas été reconnus. Et c'est ça notre lutte, l'anticolonialiste, c'est remettre l'humain au centre des dispositifs. C'est redonner au peuple Kanak son humanité. C'est ça le sens de notre lutte. Si aujourd'hui on demande notre indépendance, c'est pas une indépendance exclusive d'une indépendance, d'ouverture et inclusive. Aujourd'hui, la Kanaky est peuplée de différentes ethnies. Les premières personnes qui ont colonisé le pays, ce sont les personnes que l'Europe et la France ont considérées comme dans leur trop-plein démographique à l'époque. C'est eux qui ont été emmenés pour coloniser notre pays. Ce sont des gens qui faisaient des bêtises ici, qui ont des peines à purger. La mission, elle est arrivée après avec les commerçants. Ce sont eux qui ont d'abord peuplé notre pays. Aujourd'hui, on est appelé à construire avec eux, parce que ce sont aussi des hommes. Mais le constat que nous faisons aujourd'hui, après ces accords, c'est que la dignité, l'identité kanak n'est pas reconnue. Le peuple kanak n'est pas reconnu. On voit tout à l'heure sur la présentation de Mina, comment nous a été considéré pendant le dernier référendum. Le référendum qui doit déterminer l'avenir de notre pays. L'État a fermé les yeux. C'est ça le colonialisme. Nous venons de loin, le peuple kanak. On a failli disparaître. Un jour, un missionnaire, un pasteur, pasteur Lénard, témoignait un jour quand il est arrivé au pays en 1902. Il y avait un maire de Nouméa qui lui disait, mais pasteur, qu'est-ce que tu viens faire en Calédonie? Dans 10 ans, il y aura plus de kanak. Dieu merci parce qu'on a résisté, nos vies ont résisté et nous sommes debout. Et malheureusement, le colonialisme est toujours présent sur nos terres. Il est toujours là en plusieurs formes. La semaine dernière, cette semaine, il y a le ministre délégué de l'Outre-mer qui est parti, soi-disant, renouer le dialogue avec les indépendantistes. Il a fait le tour des provinces pour discuter, tenter d'une discussion, renouer la discussion avec les indépendantistes. À son rencontre avec l'ancien sénateur Pierre Frogier, il dit à Pierre Frogier, mais nous, la France avec les Calédonies, on a une histoire commune très importante. Je voudrais lui demander, mais quelle histoire dont il parle? Qu'il parle, c'est l'histoire de la colonisation, qui aujourd'hui il est incapable de régler, d'accompagner notre peuple pour sortir de cette décolonisation. Pourtant, c'est son engagement que l'État avait engagé en 1989. Quand il est arrivé à Lifou, dans une île en Kanaky, il disait au président de la province des îles, mais monsieur le président, l'allié, imaginez la France sans la Calédonie. C'est comme quelque chose, une partie de moi qui va être enlevée. Quand j'ai lu le discours, mais ce discours, il est purement politique. Il est purement politique. C'est le discours du colonialiste. Parce qu'aujourd'hui, on sait les enjeux qui ressemblent non seulement au Kanaky par rapport aux mines, et la politique de géopolitique et la politique indo-pacifique qui veut développer. C'est ses intérêts qu'il veut défendre dans ce dialogue. Il n'y a aucun moment l'envie de redonner au peuple kanak son humanité. C'est ça l'indépendance, c'est redonner au peuple leur humanité. Parce qu'on nous a considérés comme des animaux. Et encore mieux que... Voilà un peu ce que je peux dire sur ça. Et son discours rejoint un peu le discours de Macron en 2019, quand il est arrivé au pays, où il disait « La France sera moins belle sans la Nouvelle-Calédonie ». Et encore une fois, voilà. Nous cheminons vers... nous portons toujours notre lutte pour l'indépendance parce qu'on veut avoir un rapport... entre État et État, sortir de ce rapport paternaliste. C'est ça le sens de notre lutte.
Bonjour à toutes et à tous. Gira de la coordination 75 des sans-papiers et de la marche de solidarité. La coordination 75 des sans-papiers, ça englobe 3 collectifs des sans-papiers, celui du 11e, 18e et 19e. Ça fait 20 ans qu'elle est en place, mais la lutte des sans-papiers en France, ça date de plus reculée. Ça fait partie aussi de la marche des solidarités qui englobe tous les collectifs des sans-papiers avec les organismes en soutien avec nous, notamment la FASTI. On en remercie aujourd'hui pour cette rencontre. Et ça fait pour la reprise, ça fait une belle reprise pour nous. On va parler de beaucoup de choses, notamment notre lutte et ce qu'on envisage pour les prochains jours. Et la question de la lutte anticoloniale aujourd'hui, pourquoi on parle de la lutte des sans-papiers dans le cadre des luttes anticoloniales aujourd'hui? Parce que pour nous, les politiques européennes et la politique ici contre les migrants, c'est au cœur, malheureusement, des politiques coloniales très reculées. Si on parle des découpages du 19e siècle entre colonies et colons, si on parle du Nord et du Sud, au 19e siècle, on parle aussi du nord au sud aujourd'hui, on parle de Frontex, on parle des zones du Nord où on ne peut pas voyager qu'avec des visas. Et on parle des gens du Nord qui peuvent voyager tout simplement au Sud sans même visa. C'est le même découpage en fait. On n'est pas loin des temps des colonies. Malheureusement, le temps des colonies est encore là. Il est à jour et il survit encore. Dans la lutte des sans-papiers, dans notre lutte, on voit la persistance des temps de colonies, on voit la persistance de l'exploitation par l'exploitation des travailleurs sans-papiers. Il était là, les camarades de trois piquets de grève, ils étaient là, ils ont très bien parlé de leur lutte. Je ne vais pas reparler de ça, mais je voulais reparler des centaines de milliers de sans-papiers qui existent en France. Ils travaillent, ils constituent le réservoir d'hommes et de main-d'œuvre qui existait depuis deux jours. Les colonies pour la France et pour d'autres pays européens, c'était des réservoirs d'hommes, des réservoirs de richesses. Et malheureusement, les sans-papiers aujourd'hui, en France et en Europe, c'est des main-d'œuvre serviables à bon marché. La lutte des sans-papiers, c'est encore la lutte de tous les travailleurs. Nous, quand on essaye aujourd'hui d'améliorer les conditions des travailleurs sans-papiers, c'est l'amélioration des conditions des travailleurs, tous les travailleurs qui sont les victimes d'un système capitaliste. Ce système capitaliste qui a donné le jour au colonialisme. On ne peut pas oublier que le capitalisme et le colonialisme, en fait, la colonisation, c'est l'enfant du capitalisme. C'est du racisme. Si on parle de colonialisme aujourd'hui, de la lutte des sans-papiers, nous, dans l'année dernière, on a lancé la campagne anti-racisme et solidarité. On peut poser la question, mais les sans-papiers, pourquoi on parle d'une lutte pour la solidarité, lutte antifasciste? Mais parce que malheureusement, on subit le racisme ici. Si on veut combattre le racisme, c'est par la solidarité à la lutte des sans-papiers. Le racisme qui était la base des colonies, les missionnaires et les gens qui étaient les théoriciens pour les colonies, il y avait la suprématie de certaines races par rapport à d'autres races. Malheureusement, aujourd'hui, c'est les sans-papiers, c'est les étrangers qui subissent un certain nombre de maltraitances. Aujourd'hui, chaque jour, on subit le contrôle au faciès. Un contrôle qui se fait pour la simple raison qu'on est noir, qu'on est arabe. On nous demande la carte d'identité qu'on ne demande pas à d'autres personnes. Et là, on est arrêté, on subit une QTF et une IRTF. Si on voit les policiers aux gardes du Nord, ils n'arrêtent jamais un Français pour lui demander sa carte d'identité. Mais c'est un contrôle au faciès. C'est le même contrôle au faciès, c'est la même chose qui existait pour différencier la race au 19e siècle, au temps des colonies. Alors là, aujourd'hui, c'est très légitime. Nous, les sans-papiers, on est au cœur des luttes anticoloniales. Malheureusement, parce que le temps des colonies, ça existe encore. À la CSP 75, on est à 90% des francophones. Si on a visé la France pour voyager, pour changer de pays, c'était parce que c'était la deuxième langue, par exemple. Nous, parmi nous, il y a les Arabes, Soninké, Bambara, mais notre langue, on parle tous entre nous, on parle le français, la langue de colonisation. Si on voyage, c'était... Peut-être nous, on dit entre nous, aujourd'hui, les sans-papiers, c'est les gens qui ont choisi de défier ces frontières. Ces frontières qui étaient tracées à un moment donné par la colonisation. Il n'y a que les sans-papiers aujourd'hui qui sont au cœur de défier ce système. Personne d'autre ne pense « Ah, il y a des frontières, mais c'est normal les frontières ». Les Européens ici en Europe, grâce à l'espace Schengen, on pense jamais... Il y a une frontière dangereuse entre l'Italie et la France. On ne pense jamais qu'il y a des gens qui meurent en essayant de passer à Mont-Genèvre entre l'Italie et la France. Parce que c'est évident, mais je peux prendre le train et je peux passer très facilement en Italie. Mais non, ce n'est pas évident pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas évident pour un Nigérien ou un Malien, un Tunisien ou un Marocain qui va passer cette frontière. Ça peut coûter sa vie. Alors aujourd'hui, les sans-papiers, nous mettons en cause ces frontières. On est au cœur de la lutte contre les frontières qui sont à un moment donné tracées par la colonisation. Nos actions sont on manifeste chaque semaine, nos actions sont des marches, on organise même des marches internationales des marches contre les frontières, des marches pour la liberté de circulation et d'installation. La CSP 75 a organisé des marches vers la Tunisie, Bamako, une marche européenne. À partir de cette problématique, on peut dire que chacun, il est touché par la lutte des sans-papiers. La lutte des sans-papiers en France, c'est pas une lutte marginale. C'est une lutte qui englobe toutes les luttes. C'est une lutte antifasciste, antiraciste, anticapitaliste. C'est une lutte où chacun peut trouver sa place dedans. On sollicite la solidarité de tout le monde et on sait que toujours le fascisme et le racisme, ça commence par le plus faible, mais ça peut après toucher tout le monde. On est tout le monde là, on doit être solidaire. Tout à l'heure, dans la dernière vidéo, la camarade elle a parlé de la solidarité. Il n'y a que la solidarité que peut nous sauver contre ce colonialisme, contre le fascisme et pour un monde meilleur et l'égalité pour tout le monde. Et merci.
Bonsoir tout le monde. Donc moi c'est Nylène, comme on fait en Kanaki, c'est avec beaucoup de respect et d'humilité que je me tiens là ce soir devant vous, voilà, pour donner ma parole. Je voulais remercier aussi les participants, les organisateurs, voilà, pour cet après-midi de partage. Voilà, je voulais juste rejoindre aussi et compléter ce que nos frères et sœurs de Kanaki ont su vous expliquer tout à l'heure. Et je rejoins aussi ce que madame, elle dit. En ce moment, depuis juin 2022, nous, les Kanaks, enfin les Calédoniens, je pense que tous ceux qui... On nous a redemandé de nous faire rééditer nos cartes vitales. Et suite, bien sûr, au référendum, vous comprendrez bien que la France reste... la Calédonie reste dans la France. Et bien sûr, nos cartes vitales, les nouvelles qu'on nous édite depuis le mois de juin, il est inscrit « étranger ». Donc je parle déjà au nom des égalités des droits des personnes qui n'ont pas de papier. Eh bien nous, quand on vient ici, on n'a que notre passeport et notre carte d'identité qui est français. On n'est même pas inscrit à Pôle emploi. Si j'ai travaillé, quand je reviens là, je n'ai aucun droit. Je suis obligée de rouvrir mes droits au niveau de l'assurance. Tout ça. Et la France ne veut pas nous donner notre indépendance.
On va vous remettre deux petites vidéos concernant l'affaire de Total. Donc la première parle de l'implication de l'État français. Et ensuite, vous aurez le témoignage de Maxwell Atuhura, le militant de l'ONG qui s'appelle Tasha Research Institute Africa. Et ce monsieur, il a été victime d'une arrestation en 2021. Et voilà, il peut pas être là, on peut pas prendre le risque de l'exposer plus. Mais il a fait un témoignage et c'est grâce à Survie que nous sommes en collaboration avec lui.
My name is Maxwell Atuhura from Uganda.
Mon nom est Maxwell Atuhura, je viens d'Ouganda. Je viens d'une région où le groupe Total Energy développe deux projets pétroliers. Du nom de Tilenga et EACOP. En parallèle, l'UNOC y développe un projet depuis pétrolier nommé Kingfisher. Ici, de nombreuses personnes sont déplacées à cause de ces projets. Constatons que dans cette région, que les compagnies pétrolières instaurent un nouveau colonialisme en Ouganda. Elles ont altéré les valeurs économiques, elles ont détourné le système culturel et le système politique du pays. Les moyens de subsistance des locaux sont mis en péril. Les cultivateurs qui dépendaient de leurs terres n'ont plus de champs pour pratiquer l'agriculture. Les commerçants qui vendaient les récoltes pour gagner leur argent n'ont plus d'activité faute de produits et de terres à exploiter. Concernant notre culture, les locaux ne sont pas considérés. Leurs droits sont bafoués. Nous n'avons pas le droit de parler, pas le droit de négocier. Nous ne sommes pas impliqués dans les processus de décision. nous sommes contraints de signer des contrats de vente incompréhensibles. Ces contrats servent les intérêts des compagnies pétrolières. Quand on s'intéresse aux dirigeants politiques, on constate que le gouvernement est compromis. Ils voient le pétrole comme un moyen de financer leur régime dictatorial. Ce sont des activités que nous refusons.
Yoga, yoga, hey, De Gaulle a dit, prenez là votre indépendance. Ces coups dourés étaient bien évidemment passés par là. Ta communauté internationale, elle a du sang sur les mains. Je cherche encore la tombe de Lumumba ou de Sankara. À l'Elysée, tout comme dans nos palais présidentiels d'Afrique, je vois encore se pavaner le fantôme de Jacques Foccart. Dominé, colonisé, aliéné jusqu'à la moelle osseuse. Et certains Africains attendent encore le retour du roi des Gaulois, pendant que d'autres courbent les chines, se zombifient et courent encore après le buzz. Putain, ce qui est sûr, c'est que Modibo Keïta n'était pas loin de Félix Moumier, tout comme Sylvanus Olympio. 1950-2020, les nôtres se font encore déporter, comme le fut le roi Béanzin. Regarde Bagbo. Merde, j'ai le cerveau qui sointe. Comment veux-tu croire en leurs révélations si dans mon cœur brûle encore le budget de Kimba Vida? Qu'est-ce qu'on fait maintenant si Macky Sall, Ibeka et Alassane Ouattara aiment tant de battants? Hein? Bien sûr que se laisser battre ne sera pas la solution, parce que la jeunesse d'Afrique et de tout Kama ne se laissera pas faire malgré toutes les désolations. Il est bien plus que temps qu'on arrête de se manger entre nous. Comment croire en leurs discours mielleux si dans les faits nos rois sont leurs pantins, des dictateurs de grand chemin? Comment veux-tu que j'oublie le passé si mon continent est constamment pillé, violé, volé, violé comme au Kivu, braqué comme au Gabon, arnaqué comme à Bantan, confisqué comme en Zambie, occupé comme au Mali? Comment croire aux paroles mielleuses des Mitterrand et Macron si jusqu'à présent on a encore le goût du piment sur les lèvres? Comment croire aux paroles mielleuses si jusqu'à présent on a encore le piment sur les lèvres? Yoga, yoga, hey, hey. Zoa, Chirac a dit qu'il faut avoir un peu de bon sens pour reconnaître qu'une grande partie de l'argent qui se retrouve dans les porte-monnaies des Français vient en grande partie de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Mais le même Chirac ne s'est pas plaint quand il a fallu faire la guerre au Congo pour enrichir LV Total avec du pétrole. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, disait-il encore. Alors jeunesse d'Afrique, lève la tête et rejoins la lutte, car seuls les peuples libres peuvent pâtir en résistant devant les brutes et tous les colons qui viennent ici nous envahir. Sarkozy a dit que l'homme noir n'est pas assez entré dans l'histoire, mais il fait semblant d'oublier que les sciences et l'histoire démontrent exactement que les sciences et tous les savoirs sont bien nés en Afrique qu'ils croient ignorer. Mais putain, ce qui est sûr, c'est que la barbarie n'a pas de couleur. Le même Sarko fut l'instigateur de la guerre en Libye, s'en est suivi l'assassinat de Gaddafi. Ce qui est encore sûr, c'est que ce n'est pas l'orgueil des Macron à Ouagadougou qui nous fera oublier les milliards de la France-Afrique qu'ils ont pillé, volé. Il répète inlassablement qu'il faut oublier ce qui est passé, mais son armée française et ses billets de CFA disent le contraire. Nous vivons toujours en territoire occupé, c'est clair, man. Aussi longtemps que les lions n'auront pas leurs historiens, les histoires de chasse et d'occupation seront toujours à la faveur de tous les chasseurs et tous les colons, man.
Et nous allons passer à la deuxième partie de l'émission où vous entendrez dans un premier temps le collectif Zéro Chlordécone suivi du collectif Vietnam Dioxine.
10 ans que le collectif Zéro Chlordécone Zéro Poison existe, depuis donc 2012. Nous sommes 5 membres militantes actives, moi-même Guylaine Sabine,
Sophia Sabine,
Geneviève Barrel,
et ainsi que Marie-Julienne Cœur-Volant qui ne pouvait être parmi nous ce soir. Toutes les 4 en Martinique et la 5e Naïma Renette Dubot qui est en charge de la section parisienne du collectif. Les luttes anticoloniales. En Martinique, la lutte débute en rapport avec les grands producteurs béquets pratiquant une monoculture intensive de la banane, inondant les sols et saturant l'air de produits chimiques hyper toxiques pour la santé humaine. Mais bien avant, il y avait la canne à sucre et l'ananas, tout ceci sur fond de crise sociale, économique. Dès le départ, nous avons sensibilisé le peuple martiniquais afin d'informer sur la pollution que nous vivons. Au fur et à mesure, nous avons intensifié nos approches, déclenché la dynamique pollueur-payeur. Nous avons bataillé pour obtenir la gratuité du test chlordécone, notamment pour le biais d'une pétition en ligne qui a récolté plus de 35 000 signatures, et aussi par des campagnes de chlordéconomie organisées par nos propres moyens et nos propres fonds. Trois longues années avant un résultat à moitié satisfaisant, puisque cette action n'a pas encore atteint son plein potentiel. La demande primaire concernait tous les pesticides et gratuité du test pour tous. L'État, par l'intermédiaire de l'ARS, s'est axé sur les ouvriers agricoles qui, certes, furent en première ligne. Mais plus de 90% de la population martiniquaise est impactée par cette pollution.
La justice est centralisée. Les décisions sont prises depuis Paris. Cela reflète encore au XXIe siècle la forme de colonisation que nos parents et aïeux ont connue avant la départementalisation de 1946. Notre insularité, l'éloignement, les législations françaises et européennes exponentialisent la dépendance économique et nous privent d'interactions constructives avec nos voisins de la Caraïbe. L'économie martiniquaise est fortement tertiarisée. Ainsi, en 2010, les services représentaient 84,2% de la richesse produite contre 13,5% pour l'industrie et la construction et 2,3% pour l'agriculture, la pêche et l'aquaculture. Nous concentrons très peu de pouvoir décisionnel malgré une collectivité unique. Il en est ainsi pour notre autosuffisance alimentaire. Le collectif Zéro Chlordécone Zéro Poison mène une lutte titanesque tant au niveau de l'agriculture que pour la qualité de nos eaux. C'est ainsi que, suite aux révélations d'Éric Godard, ancien délégué ministériel en charge du dossier chlordécone, lors d'une commission d'enquête au cours de laquelle il a dénoncé la présence de chlordécone dans l'eau du robinet, le 12 octobre 2019, nous organisions une grande manifestation sur la bannière « Déclaration de résistance contre le crime colonial ». S'en est suivie l'action juridique des sommations interpellatives auprès des distributeurs d'eau.
La mise en pâture de la santé des Martiniquais sous la coupe du capitalisme constitue un traumatisme supplémentaire de l'action coloniale. L'appétit des grands planteurs, avec la bénédiction de la politique colonialiste élyséenne, consumériste française, a engendré de nombreuses pathologies. Notre petite île connaît le triste record d'être le premier pays impacté par le cancer de la prostate. Et aujourd'hui, nous savons que l'on retrouve du chlordécone dans le cordon ombilical du fœtus, qui se retrouvera par voie de fait dans le lait maternel et aura des conséquences sur le développement neuromoteur de nos enfants. Les générations entières sont condamnées. Par ce biais, nous pouvons même parler de génocide. Et pourtant, à ce jour, aucune étude sérieuse n'est mise en place. Les différents plans chlordécone 1, 2, 3, 4 proposés par l'État n'ont donné aucun résultat probant et significatif. Cela démontre que le peuple n'est pas inclus dans leurs travaux et encore moins entendu. Dans le même état d'esprit que la pétition, pour un dépistage gratuit, nous avons élaboré le projet Chlordétox, car il nous a été rapporté par le docteur Jospilage la possibilité de débarrasser le corps du chlordécone.
Ces deux dernières années, le préfet a usé de son pouvoir de coercition. Plusieurs militants ont été emprisonnés injustement et de manière totalement arbitraire. En tout état de cause, les régions dites ultra-périphériques restent des lieux d'expérimentation en tout genre, que cela soit dans l'agriculture, chez nous, dans les Caraïbes, ou encore les essais nucléaires en Polynésie. La politique migratoire établie dans les années 60 à travers le Bumidom a saigné la population autochtone de ses forces vives. Le taux de chômage élevé sans politique économique et sociale volontariste pousse malgré eux beaucoup de jeunes à quitter le territoire. Il y a à peine 40 ans, la Martinique comptait une jeunesse nombreuse et vivace. À cause de tout ce passif, à l'horizon de 2035, nous serons le premier département français à compter le plus de personnes âgées. C'est aussi cela, la politique coloniale à la française.
Nos moyens de résistance à ce colonialisme doivent rester en accord avec les principes de la nature par le biais de l'agroécologie et le respect de valeurs humaines, voire spirituelles. Auparavant, chaque Martiniquais avait son long pénotaire et cultivait sur le mode des cultures ancestrales. Nous avons constaté et encouragé participer au retour de ces pratiques résistantes depuis environ 5 ans. La tâche est rude, malgré les bonnes volontés. La législation coloniale brime, verrouille de plus en plus toutes les initiatives visant à un quelconque degré d'autonomie et nous dénonçons cette volonté des puissances colonialistes de faire un hold-up sur la pharmacopée mondiale et traditionnelle locale martiniquaise. Se soigner par les plantes demande des connaissances qui doivent continuer à se transmettre. Quant à la prévention avec les plantes, elle doit rester accessible à tous, libérer les semences, planter les jardins et prendre soin de soi.
Dans ce contexte d'oppression coloniale, internationaliser la lutte, tisser des liens de solidarité avec d'autres peuples en lutte et renforcer les connexions avec notre diaspora est un axe indispensable à développer selon nous. Notre présence active sur les réseaux sociaux nous a permis de susciter l'intérêt de la presse internationale, comme par exemple la BBC. Également, les actions développées par notre section parisienne depuis octobre 2019 ont généré de nouveaux soutiens à la lutte. Nous sommes naturellement solidaires des mouvements féministes, écologistes, décoloniaux, contre les violences policières, pénitentiaires, le racisme, autant de luttes que le combat contre l'empoisonnement au chlordécone suscite par son caractère systémique.
On représente le collectif Vietnam Dioxine, qui est un collectif qui a été créé en 2004. Il regroupe des bénévoles, mais aussi des associations comme l'Union des jeunes vietnamiens de France ou l'Association d'amitié franco-vietnamienne. Et aujourd'hui, nous, on lutte pour la reconnaissance victime de la jaune orange. On réclame une justice environnementale pour le premier écocide de l'histoire. Définir un écocide, on pourrait le définir comme la volonté de détruire à travers un acte criminel un écosystème et tous ses êtres vivants. C'est ce qui s'est passé lors de la guerre du Vietnam et l'épandage de la jaune orange par l'armée états-unienne. La jaune orange, c'est un des herbicides, une des armes chimiques qui a été utilisée par l'aviation états-unienne pendant la guerre du Vietnam entre 1961 et 1971 à peu près. Pourquoi jaune orange? Parce que l'arme chimique était rangée dans des barils, c'était finalement une bande orange autour pour reconnaître cette arme chimique-là, parce qu'il y avait aussi l'agent rose, l'agent bleu. Plusieurs litres d'agents chimiques ont été déversés sur le Vietnam pendant la guerre. Et l'agent orange, dedans, ce qui est vraiment toxique pour l'être humain, c'est la dioxine. La dioxine, c'est du coup des molécules qui ont été utilisées par notamment Monsanto, Dow Chemical ou encore Heracles. Et ils ont utilisé cette dioxine qu'ils savaient déjà à l'époque où l'agent orange a été déversé, qu'elle était très nocive pour l'être humain. Mais pour pouvoir produire l'agent orange plus vite et en plus grande quantité, elle a été utilisée sciemment. Alors, qu'est-ce que l'agent orange fait sur le corps des victimes? On estime aujourd'hui, on est à la troisième, quatrième génération de personnes vietnamiennes qui sont encore victimes de l'agent orange. Donc, ça va s'exprimer par des malformations, des membres du corps en moins, de la cécité, de la surdité. Il y a avoir beaucoup d'enfants qui meurent dès leur naissance, des fausses couches, ou des enfants qui meurent de cancer après quelques années de vie. Donc l'agent orange, on peut dire que c'est une vraie arme coloniale qui a encore aujourd'hui ses effets. Pour vous dire à quel point il est présent encore au Vietnam, l'Université de Columbia, en 2002, a fait une étude qui démontre que seulement 80 grammes de dioxine pure dans l'eau d'une ville, peut-être parler de New York, qui compte à peu près 8 millions d'habitants, il suffirait finalement de 80 grammes dans l'eau de New York pour tuer toute sa population. Et au Vietnam, c'était 366 kilos de dioxine qui ont été aspergés sur le territoire, dont 20% de la forêt vietnamienne a disparu. Il y a aussi le Cambodge et le Laos qui ont été touchés. Encore aujourd'hui, on a 400 000 hectares de terres agricoles qui ont été et qui sont toujours empoisonnées.
Maintenant, on va voir la relation entre le colonialisme et finalement l'âge orange. Et comment ne pas parler de justice et de réparation quand on parle de lutte décoloniale, anticoloniale? Anticoloniale parce que finalement, je vous parlais de personnes qui ont résisté face à la France durant la guerre de décolonisation entre 1945 et 1954. Et ensuite, je vais aussi vous parler de la guerre états-unienne au Vietnam, qui a duré près de 20 ans, entre 55 et 75. Je vais vous parler d'un procès qui a lieu en France. Donc, il faut savoir, donc, l'agent orange, c'est plus de 3 millions de victimes, et encore aujourd'hui, des gens naissent avec des malformations des dégâts. Clara l'a dit, on parle vraiment d'écocide. Et en fait, depuis 2014, il y a une résistante franco-vietnamienne qui s'appelle Trentonia, aujourd'hui 81 ans, qui a intenté un procès face à 14 multinationales. Et en fait, ce procès, c'est la dernière chance en fait pour les victimes vietnamiennes de l'âge orange de pouvoir demain réclamer justice et réparation. Avant de vous parler de ce procès, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé en 1984. En 1984, les vétérans états-uniens ont porté plainte contre Monsanto parce qu'en fait, ils ont eu aussi des cancers, des maladies, leurs enfants ont eu des malformations, etc. Donc il y a eu un procès qui a été lancé et en fait, Monsanto et les autres multinationales ont acheté le silence de ces vétérans, c'est-à-dire qu'ils ont dit « on vous donne 180 millions de dollars et en échange, vous portez pas plainte et vous ne parlez pas de vos maladies, etc. » On voit que finalement, les vétérans états-uniens ont eu une sorte de justice, enfin, ils ont eu de l'argent, on a acheté leur silence, et ça, ça servait aussi pour que finalement les victimes vietnamiennes ne puissent pas bénéficier finalement de cette jurisprudence. Et en fait, lors de ce procès, la justice, en tout cas, a eu une liste de maladies, donc c'est-à-dire aujourd'hui, on a une vingtaine de symptômes de l'âge orange, les cancers, les lymphomes hodgkiniens, les malformations, les diabètes, etc. Et donc, ça, c'est une liste qui est établie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes vétéran aux États-Unis, vous pouvez dire « j'ai trois maladies » et il y a un fonds d'indemnisation des vétérans qui a été mis en place. Avant ça, il y a eu aussi un procès qui a été attenté par les victimes vietnamiennes, c'est-à-dire qu'il y a une délégation vietnamienne qui s'est rendue aux États-Unis dans les années entre 2000 et 2010. Et ces victimes vietnamiennes, elles ont porté plainte contre Monsanto, les autres fabricants, etc. Bon, il y a eu une longue procédure, etc., je vais vous raconter la fin, et ils ont été déboutés par la Cour suprême des États-Unis, et en fait, ils n'avaient pas envie qu'il y ait un précédent, parce que s'il y avait un précédent, ça veut dire que demain, n'importe quelle victime vietnamienne pouvait porter plainte. Et c'est monté assez haut, jusqu'au secrétariat d'État, etc., et finalement, la Cour suprême a dit qu'il n'y a pas de lien entre les maladies et l'agent orange. Les entreprises n'ont pas délibérément créé de la dioxine, et donc les victimes vietnamiennes ont perdu. On va revenir maintenant au procès en France. Trentonia, elle a participé en fait en 2008 à un tribunal d'opinion qui a été organisé en France, notamment par André Bonny, où il y avait William Brodon, etc. Et elle a décidé, voilà, moi je vais, en tant que franco-vietnamienne, je vais porter plainte contre Monsanto, etc. Et donc, depuis 2014, c'est une autre procédure parce qu'il y a plus de 300 000 euros en fait, de frais qui ont été engagés. Elle a ses trois avocats bénévoles, William Bourdon, Amy Lefebvre et puis aussi Bertrand Repolt. Et en face, il y a 14 multinationales avec une quinzaine d'avocats. Eux font tout pour qu'en fait, il n'y ait pas de justice. Et en fait, donc, il y a une première plaidoirie, une audience de plaidoirie qui a eu lieu l'année dernière en janvier 2021, donc au tribunal d'Evry. C'était une longue procédure écrite pendant 7 ans, donc ça a été assez long. Il y a eu la pandémie, il y a eu du retard, sachant que Trentonia, elle a différentes maladies. Hein. Je vais vous expliquer ce qu'elle a eu. Elle a perdu un enfant, notamment, quand elle était jeune, quand elle était sur la piste Ho Chi Minh, qui est décédé d'une tétralogie de Fallot. Il y a ses deux filles qui ont aussi des maladies de l'âge orange. Et elle a différentes maladies cochées, notamment par les maladies qui ont été détaillées lors du procès aux États-Unis. Donc au procès, par exemple, j'y étais personnellement, il y a les entreprises qui ont dit « qu'est-ce que vous faisiez en fait, vous, dans la forêt ?» Quand on est enceinte, on ne va pas dans la forêt alors qu'elle était agente de liaison. Donc finalement, les avocats ont pointé sa responsabilité en disant « si vous êtes malade, c'est votre faute ». Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que, je crois que c'est l'avocat de Monsanto qui a dit que finalement, si les États-Unis finalement ont utilisé l'agent orange pour débusquer les résistants du Front National de Libération du Vietnam, c'était de la légitime défense. Les États-Unis se seraient défendus, ce serait de la légitime défense face aux Vietnamiens qui se seraient battus pour que les États-Unis quittent leur territoire. Ça s'appelle quand même une ingérence. Je vais vous raconter aussi la fin de ce procès. Finalement, le tribunal d'Evry s'est déclaré incompétent. Ils ont dit, les multinationales auraient obéi au gouvernement des États-Unis. Parce qu'en fait, le premier argument, qui était un argument de forme, c'est un peu compliqué, c'était de dire que nous, Monsanto, Dow Chemical, on aurait juste obéi au gouvernement des États-Unis. On n'est pas responsable. Le responsable, c'est le gouvernement des États-Unis. Ça, c'est très malin, parce que vous savez que les États-Unis, c'est un des seuls pays qui n'a pas ratifié le traité de la Cour pénale internationale. Demain, s'il y a un génocide, des crimes contre l'humanité, vous ne pouvez pas porter plainte contre les États-Unis. Et il y a une longue histoire aussi entre le Vietnam et les États-Unis qui fait que le Vietnam a été longtemps sous embargo et les conditions en fait pour lever l'embargo, c'était que le Vietnam n'attaque pas les États-Unis. Et donc le tribunal donc a finalement suivi les arguments de la partie adverse, alors que finalement les entreprises ont répondu à un appel d'offres. Donc, ça veut dire qu'elles ont délibérément choisi, comme disait Clara, de produire de la dioxine parce que la dioxine était plus rentable, plus intéressant à produire. Donc voilà encore que il y a une certaine facette du capitalisme qui est aussi en lien avec le colonialisme. Le tribunal s'est déclaré incompétent et pour information, donc Trentonia là, a fait appel en mai de l'année dernière et donc l'audience d'appel aura lieu donc dans un an à peu près, j'espère. Et c'est une longue procédure parce que du coup là, ce sera la cour d'appel de Paris que ça va se passer. On organisera sûrement des manifestations aussi avant et après. Et si en fait elle remporte cet appel, le procès revient à Évry, au tribunal. Et là, le dossier sera jugé sur le fond. Parce que pour l'instant, on n'a pas parlé de fond. On a juste parlé de forme, d'immunité de réduction, si vous connaissez un peu le droit, etc. On voit que c'est aussi une stratégie de ces multinationales de faire durer le procès de plus en plus longtemps. Parce que Trintonia, elle a 80 ans, elle est malade. Et en fait, ils ont juste envie qu'elle meure. Parce que demain, si elle meure, ce sera compliqué de poursuivre la procédure. Et donc, il risque jamais d'y avoir de justice. Pour conclure, là, on a parlé un peu de Malcolm Ferdinand, voilà, et d'une écologie décoloniale. Donc là, on voit que vraiment cette question de justice et de réparation est centrale en fait dans ce sujet-là. Et on voit par exemple qu'il y a plein d'actualités aujourd'hui qui permettent de poursuivre le colonialisme. Clara l'a dit, le concept d'écocide est né avec la guerre du Vietnam. Et en France, là, tous les sujets liés à l'écocide. Donc il y a par exemple, on a parlé du chlordécone aux Antilles. Il y a les sujets de Montagne d'Or en Guyane. Il y a plein de sujets où en fait on sait que c'est d'écocide. Et aujourd'hui, l'État français, avec notamment Emmanuel Macron, ont juste limité cet écocide à un délit, et finalement, qui ne représente rien, parce qu'il n'y a aucune chance qu'aujourd'hui, on s'en prenne aux entreprises. C'est pour ça que nous, on essaye aussi, je pense, c'est aussi de faire des ponts entre les différentes luttes décoloniales, notamment, et voilà, les luttes de camarades, parce que finalement, dans tous les procès similaires, que ce soit le chlordécone, il y a eu Paul François qui a attaqué Monsanto, c'est toujours les mêmes mécanismes. Et finalement, ces multinationales arrivent toujours à se sortir à la fin. Donc là, on voit vraiment encore qu'il y a un fort lien entre colonialisme et capitalisme et que c'est important de se serrer les coudes dans cette lutte-là. Voilà.
J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée. Y'a pas de champ de canon, j'achère. Tous les jours on y laisse et sa sueur et sa chair. Et nos pauvres corps meurent sans repos ni fraîcheur. Avec chapeau et foulard pour contrer la chaleur. Descendant de ces féroces croisières négrières, on garde force et courage en chantant à plusieurs. Il n'y a pas que le salaire pour creuser nos malheurs. Nos anciens tortionnaires sont nos nouveaux employeurs. Après avoir brûlé les barrières, arraché la lanière du fouet, lever les paupières vers la lumière et venir embrasser le rêve d'une vie meilleure où le nègre y serait une bannière à ses propres couleurs. On a mangé la poussière de la pire des manières, peu fier de retourner dans la plantation d'hier. La mer est une frontière, comment aller ailleurs? Désormais libre, ouais, mais toujours inférieur. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. Où va le fruit de mon labeur? La douleur de mes bras et mes lombaires, la lourdeur de mes jambes et toutes ces longues heures à ratiboiser la canne pour battre ma misère. Et les blancs sont aisés, malins et rusés, ont belle maison et timoun scolarisé, soi-disant qu'il ne faut rien leur refuser. Moi j'ai la peau sur les os, sous une chemise usée. J'ai aidé les voisins, rassemblé mon réseau, j'ai sorti mon coutelas, aiguisé mes ciseaux et pris la décision, sans trouble ni confusion, de baptiser le béquet d'une belle incision. Malfaisant, insolent, sur son trône installé, estimant comme son bien des terres qu'il a volées. Son destin sera le mien dès qu'il sera esselé. Il va entendre et comprendre et il pourra bien gueuler. Je laverai l'affront, je vengerai l'Afrique, les fonds de cale et le travail forcé à coups de trique. Et si le rhum et l'argent coulent à flot, c'est que j'ai un sac qui pèse un massacre sur le dos. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. Combien de massacres pour un sac de sucre? Ma vie se consacre à porter ma misère dans un sac de sucre. Combien de massacres pour un sac de sucre? Ma vie se consacre à porter ma misère dans un sac de sucre. Un sac de sucre. Une bouteille de rhum. Un sac de sucre. Un sac de sucre. Une bouteille de rhum. Ou un sac de sucre.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassil à Toulouse, à local à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.